Pourquoi Afrique ? Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec et Eric Manirakiza en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du jeudi 22 septembre 2016. Au sommaire ce soir.
Kinshasa s'insurge contre l'immixtion de Paris et de l'ONU dans la politique congolaise.
Les Gabonais en attente du verdict de la Cour constitutionnelle sur le contentieux électoral, l'Union africaine assiste au recomptage des voix.
Démarrage du dialogue politique en Guinée entre la mouvance présidentielle et l'opposition.
En Caroline du Nord, ici aux États-Unis, l'état d'urgence est instauré à Charlotte. De violentes manifestations ont suivi le meurtre d'un noir par un policier.
L'économie et les sports.
Juste après le journal.
Kinshasa décrit l'ingérence de Paris et des Nations Unies dans les affaires congolaises. Ce jeudi, aujourd'hui donc, le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a dénoncé l'ingérence de François Hollande, le président français, et des Nations Unies dans la vie politique congolaise. Eddy Issango.
Lors de son point de presse hebdomadaire, le ministre congolais s'est directement adressé à Paris. Lambert Mende s'est même demandé si la République démocratique du Congo était devenue un nouveau département d'outre-mer, issu de nouvelles conquêtes de l'Hexagone. Les porte-parole du gouvernement a estimé que François Hollande avait fait preuve d'une compassion sélective vis-à-vis des victimes des violences ayant fait plusieurs dizaines de morts. En comparant l'ingérence à celle de la Libye par l'Europe, Lambert Mende a vivement critiqué François Hollande et son intransigeance sur les dates de l'élection. Mardi, depuis New York, les présidents français avaient parlé des violences inadmissibles, insupportables. 32 personnes selon la police et une centaine selon l'opposition sont mortes lundi et mardi à Kinshasa. Les violences ont commencé en marge d'une manifestation de l'opposition pour demander le départ du président Joseph Kabila au terme de son mandat le 20 décembre et la convocation de l'élection présidentielle. Le dialogue national doit en principe reprendre demain vendredi dans la capitale congolaise qui a retrouvé un calme précaire.
Au Gabon, les avocats d'Ali Bongo et ceux de Jean Ping ont pris la parole ce jeudi devant la Cour constitutionnelle lors d'une audience publique. Le recomptage des voix a eu lieu en présence des juristes de l'Union africaine. Les détails à Libreville avec notre correspondant Jean-Rovis Dabani.
Depuis deux jours, les 9 juges constitutionnels épluchent les procès-verbaux qui ont atterri sur leur table. L'opération se déroule en présence des 5 juges de l'Union africaine venus du Togo, du Niger et du Cap-Vert. Selon la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Boranchuo, deux autres juges de l'organisation panafricaine devaient se joindre au groupe. L'opération de recomptage de voix se déroule dans un contexte tendu, né de la contestation de la réélection d'Ali Bongo. Le camp de Jean Ping, arrivé officiellement deuxième, selon les résultats proclamés par le ministère de l'Intérieur, continue d'exiger l'examen au fond des procès-verbaux issus de la province du Haut-Ogooué, où Ali Bongo a obtenu 95% des suffrages. Depuis hier, le recomptage de voix s'est fait en l'absence des représentants des candidats, alors que l'opposition avait demandé la mise en place d'une commission ad hoc pour assister aux opérations. Ce jeudi, lors d'une audience retransmise à la télévision publique, le juge rapporteur a présenté son rapport final. Les 9 juges se sont ensuite retirés avant le verdict qui devait intervenir tard dans la soirée ou demain vendredi. Le gouvernement a déjà prévenu, aucune nouvelle violence ne sera plus tolérée. En attendant, la capitale gabonaise est calme. Plusieurs administrations ont demandé à leurs employés de rester chez eux ce vendredi 23. Libreville, Jean-Rovis Dabani, VOA Afrique.
Congo-Brazzaville, le représentant de la plateforme d'opposition Frocad IDC en Europe, dénonce le climat de répression instauré par le président Denis Sassou Nguesso. Wabari Mariotti réclame la libération d'une centaine de prisonniers politiques, dont le général Jean-Michel Mokoko. Le ministre congolais de la Justice lui a rétorqué qu'il n'y a pas de détenus politiques au Congo. Pour lui, être un homme politique ne garantit pas l'impunité devant la loi.
Et démarrage à Conakry du dialogue politique, opposants et leaders de la mouvance présidentielle se rencontrent pour trouver un calendrier électoral et définir un cadre de discussion. L'organisation des élections électorales et communales font partie des priorités de l'opposition. Le point avec John Hindon.
Pour l'opposition, la première journée devrait être consacrée à l'adoption de l'ordre du jour et le cadre du dialogue. Il faudrait aussi se mettre d'accord sur la personne qui aura à présider cette rencontre. L'UFDG, principal parti d'opposition, a recusé le ministre de la Justice, Cheikh Sakho, et demande une personnalité connue pour sa neutralité, son impartialité, son expérience en matière de médiation et de gestion de crise. Pour faciliter le déroulement des discussions, le ministre Bourama Kondé avait déjà rencontré toutes les parties pour recueillir leur avis. L'ouverture de ces dialogues intervient près de 3 semaines après la rencontre entre le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition, Seloud Alain Diallo. Au cours de ces tête-à-tête, le chef de l'État avait pris l'engagement d'œuvrer pour faire respecter les accords politiques qui sortiront de ce dialogue.
Au Togo, Morgan Alberto Olimpio, président du Parti des Togolais, a été condamné à 5 ans de prison ferme. Ses anciens partenaires l'accusaient d'avoir détourné 6 milliards de francs CFA d'un groupe Akchend, spécialisé dans l'informatique et les télécommunications dont il est le fondateur.
9 soldats pro-gouvernementaux et 10 djihadistes présumés ont été tués dans des combats à Sirte, le bastion du groupe État islamique en Libye.
Nouvelle attaque des Shebab dans le nord-est du Kenya. Les djihadistes somaliens ont attaqué un poste de police proche de la frontière. La police assure avoir tué un Shebab. Les djihadistes disent avoir tué au moins 6 policiers et capturé 2 autres.
Naufrage au large des côtes égyptiennes. On compte désormais 55 morts, mais le bilan risque de s'alourdir. Le bateau transportait jusqu'à 450 personnes et seulement 163 personnes ont pu être secourues.
Le gouvernement sud-africain dénonce aujourd'hui l'intensification des manifestations violentes dans les universités et promis de mettre fin à ces actes de hooliganisme après l'annonce de l'augmentation des frais de scolarité pour 2017.
Et en Côte d'Ivoire, la quasi-totalité des forêts classées est en voie de destruction en raison des occupations illégales et des défrichements sauvages. Dénonciation aujourd'hui à Abidjan du responsable national en charge de sa protection.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le gouverneur de l'État de Caroline du Nord a décrété l'état d'urgence hier en raison des violences qui ont émaillé de nouvelles manifestations à Charlotte. Un homme blessé par balle se trouve dans un état critique, Salwa Jafari.
C'est dans cette scène de chaos qu'on entend un coup de feu. Les manifestants se dispersent. Un homme est à terre. Il est grièvement blessé. La ville de Charlotte sort d'une nouvelle nuit d'affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants. Ils protestent contre la mort de Keith Lamont Scott, un Afro-Américain de 43 ans abattu par la police mardi. Les manifestants ont lancé des projectiles contre les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène. L'homme blessé par balle est toujours dans un état critique. Le gouverneur Pat McCrory a en outre pris l'initiative de déployer la garde nationale et la police autoroutière pour aider la police locale de Charlotte.
Notons que 44 personnes ont été interpellées la nuit dernière dans la ville de Charlotte.
Troisième journée des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. 2 réunions de haut niveau consacrées aux femmes se tiennent aujourd'hui, dont celle sur l'autonomisation économique des femmes. Timothée Donangmaï.
La réunion sur l'autonomisation économique des femmes et l'égalité des genres s'appuie sur un nouveau rapport d'experts qui constate que les écarts subsistent entre les hommes et les femmes dans le domaine de l'emploi. Plusieurs facteurs expliquent cette situation, a commencé par une attitude négative vis-à-vis de l'emploi des femmes. Le rapport fait plusieurs recommandations, notamment l'élimination des lois discriminatrices à l'égard des femmes en matière d'accès à l'emploi et à la propriété. Notant qu'1% seulement des marchés de fourniture de biens et services est attribué aux femmes dans le monde, le rapport appelle les gouvernements et les acteurs privés à prendre des mesures pour corriger ce déséquilibre. L'autre réunion de haut niveau sur les femmes est consacrée au nouvel agenda pour les femmes, la paix, la sécurité et la médiation. Dans un contexte mondial présentant de nombreux défis allant du terrorisme au changement climatique, la rencontre reconnaît l'importance de la diplomatie préventive et du rôle que les femmes doivent y jouer. Timothée Donangmaï, New York, VOA Afrique.
À À la tribune de l'ONU, le président iranien Hassan Rouhani a accusé les États-Unis de ne pas respecter totalement leurs engagements au terme de l'accord sur le nucléaire iranien. Il a critiqué une décision de la Cour suprême américaine autorisant la saisie d'avoirs iraniens.
Et des quartiers rebelles d'Alep étaient en feu aujourd'hui après une nuit d'intenses combats. Au moins 12 personnes ont trouvé la mort dans un attentat à la voiture piégée dans le sud du pays. À New York, les principaux pays impliqués dans la crise syrienne tentaient de ressusciter la trêve qui a rendu l'âme cette semaine. Le Pentagone a tenu la Russie pour responsable du bombardement aérien sur le convoi humanitaire lundi.
Au Yémen, une partie du gouvernement en exil est rentrée aujourd'hui à Aden, ville du sud déclarée capitale provisoire. Sanaa reste sous le contrôle des rebelles chiites houthis.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
L'agriculture au sens large demeure en Afrique la voie indiquée, a affirmé aujourd'hui Amadou Ba, le ministre sénégalais de l'économie, lors des rencontres Africa 2016. L'événement organisé à Paris sur 2 jours, les 22 et 23 septembre, réunit plus de 300 entreprises africaines et plus de 500 françaises. Sénégal toujours, où les prix à la consommation sont en hausse de 0,9%, des chiffres fournis par la Direction de la prévision et des études économiques et retransmis par l'agence APA News. Au Burkina Faso, le gouvernement projette des dépenses budgétaires en hausse pour 2017 à hauteur de 33,81%. En Guinée, 50 000 logements vont être construits dans la banlieue de Conakry. Power China Engineering, l'entreprise chinoise responsable du chantier, vient d'en dévoiler le concept. Ce projet fait partie de Grand Conakry Vision 2040, initié par la SONAPI, la Société nationale de la promotion immobilière. Au Congo-Brazzaville, la filiale locale de Mercure International of Monaco vient d'ouvrir à Brazzaville le premier hypermarché du Congo. L'hypermarché s'inscrit dans un vaste centre commercial dont les travaux seront achevés d'ici à la fin de l'année.
Et on change de cadence, Morgan. Le rythme d'espoir est annoncé. D'abord le football.
Réforme sur la Ligue des Champions, l'Association européenne des ligues de football professionnelles s'y oppose.
Ah oui, le Suédois à la tête de cette association a même brandi la menace d'une révolte des ligues face aux instances du football européen. Pour lui, la réforme de la Ligue des Champions est un scandale. L'UEFA avait en pleine vacances du pouvoir fin août décidé que pour la période 2018-2021, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie auraient 4 places garanties en phase de poule de la Ligue des Champions au nom de leurs bons résultats passés dans l'épreuve reine européenne.
Euro 2020, Rome accueillera 4 matchs, mais se rétracte pour abriter les JO 2024.
Tout à fait, Morgane. La maire de la capitale italienne, Virginia Raggi, s'est dite honorée que sa ville accueille plusieurs matchs de l'Euro 2020 de football, un événement important du sport mondial. Par contre, Madame Raggi a retiré le soutien de la municipalité de Rome à la candidature de la ville pour les JO 2024, la jugeant irresponsable.
Espagne, FC Barcelone, 3 semaines d'absence de Messi sur le terrain.
Oui, l'attaquant du FC Barcelone est sorti sur blessure lors du choc contre l'Atlético Madrid, un but partout ce mercredi en championnat d'Espagne. Lionel Messi souffre d'une déchirure à une cuisse et sera absent environ 3 semaines, selon le club catalan. Et retour en force de Mario Balotelli, Morgan.
L'Italie du football assiste à la résurrection niçoise de Mario Balotelli et se souvient qu'un avant-centre de talent serait bien utile à son équipe nationale. 4 buts en 3 matchs pour celui qui en avait inscrit 3 durant toute la saison dernière au Milan. Un peu incrédule.
Oui, Mourinho fustige les Einstein du football.
à la suite de la rafale de critiques qui ont accompagné le catastrophique début de saison de Manchester United. Les Mancuniens.
C'est les Mancuniens.
Il faut que je remette à jour mes fiches. Ont enregistré 3 défaites d'affilée la semaine dernière.
Ah oui, la spirale s'est certes stoppée hier soir avec une victoire face à Nafton, 3-1.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Morgane Diayek et Eric Manirakiza en votre compagnie. Place au dossier du jour.
Première destination au Burundi, où le rapport des Nations Unies faisant état de risque de génocide fait grincer des dents. Des dizaines de personnes, y compris des Tutsis, manifestent depuis mercredi devant les bureaux de l'ONU pour décrier ces avertissements. Il n'y a pas de génocide en cours au Burundi, martèle-t-il. Un avis plutôt qui n'est pas partagé par tous. De Bujumbura, le reportage est signé Christophe Murunziza.
Des dizaines de personnes se sont rencontrées devant les bureaux des agences des Nations Unies au Burundi avec des pancartes qui affichent clairement qu'il n'y a pas de génocide au Burundi. Cet homme est parmi les gens que nous avons rencontrés en train de manifester calmement entouré de policiers.
Nous sommes venus en tant que Tutsis pour témoigner notre colère parce que très récemment il y a un rapport des Nations Unies sur les droits de l'homme qui a dit qu'il y a un génocide Tutsis qui est en train de se faire ici au Burundi. Nous sommes ici pour témoigner notre colère afin de mentir son mensonge. Il n'y a pas une planification non plus. Nous sommes ici pour témoigner qu'il n'y a plus de génocide et qu'il n'y aura plus ce génocide.
Au centre-ville, ce père de 3 enfants qui vit à l'intérieur du Burundi estime quant à lui que des signes sont visibles de la préparation d'un génocide au Burundi.
Moi, à mon avis, je crois qu'il y a un génocide parce qu'avoir les tueries sélectives qui se commettent dans les corps de défense de sécurité, il y a des militaires tutsis qui sont tués, mais aussi il y a des jeunes qui sont torturés, enlevés par la milice Imbonerakure. Je peux dire que d'une manière ou d'une autre, il y a un génocide qui se prépare.
Le gouvernement burundais a dénoncé les conclusions des experts des Nations Unies sur les droits humains, indiquant que leurs conclusions sont politiquement motivés, car se basant sur des témoignages anonymes non vérifiés. Cet autre père de famille affirme que des actes de génocide sont perceptibles au Burundi.
Franchement parlant, si on essaie de voir ce qui se passe, si on essaie de savoir la vraie définition du mot génocide, réellement le génocide a été préparé. Mais ce n'est pas le génocide, surtout des Burundais détenus Tutsis, tout simplement. Peut-être qu'aujourd'hui, le génocide a changé de forme. Il y a le génocide des Burundais, surtout les Tutsis et les Hutus, qui n'ont pas une même vision que ceux qui disent qu'il n'y a pas de préparation de génocide au Burundi.
Les Nations Unies ont dénoncé dernièrement des exactions commises par le gouvernement burundais. Ce rapport met en garde contre de possibles crimes contre l'humanité et un grand danger de génocide. Le rapport indique également que ces violations, même si elles ont manifestement diminué d'intensité, sont systématiques et constantes et l'impunité est omniprésente. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous. Nous sommes ici au siège de l'ONU à New York où se déroule sa 71e Assemblée Générale. Eh bien, nous en parlerons demain dans Washington Forum. La Syrie et la crise des réfugiés dominent les débats, mais quid de l'Afrique? Les dossiers épineux du moment, tels que la crise en RD Congo, ont-ils également la priorité? Demain dans Washington Forum, également au programme le Forum des Affaires États-Unis-Afrique qu'organise le président américain Barack Obama en marge de cette assemblée. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Épidémie de fièvre dans la vallée du Rift au Niger. 52 cas ont été recensés et 21 personnes sont mortes. La fièvre de la vallée du Rift est une maladie virale touchant les animaux et les hommes. Elle sévit depuis fin août dans la région pastorale de Tawa, dans l'ouest du Niger. Pour savoir le mode de contamination et les moyens de prévention, Claire Morin-Gibour a joint le docteur Ilyes Ouidi du district sanitaire Niamey 1.
la contamination se fait par contact direct ou indirect avec du sang ou organes d'animaux contaminés, ou suite à la manipulation des tissus d'animaux au cours de l'abattage, par exemple aux abattoirs, l'élimination ou la mauvaise élimination des carcasses et des animaux qui sont morts, ou lors de l'accouchement ou du moins de la mise à bas de l'animal, si l'animal est contaminé, si le vétérinaire entreprend la mise à bas de l'animal, il peut se contaminer. Et les groupes les plus exposés à cette maladie, c'est les éleveurs, les agriculteurs, les employés de laboratoire, les employés des abattoirs, les vétérinaires. Et le virus peut naître chez l'homme par inoculation en cas de blessure. Il faut que la personne soit blessée, il faut qu'elle ait une porte ouverte, soit donc en cas de blessure avec un couteau souillé lors de dépeçage de l'animal, ou si la personne présente une lésion cutanée ou une lésion sur une muqueuse. Il y a également l'ingestion du lait cru ou non pasteurisé provenant des animaux infectés. Vous avez également d'autres voies de transmission, les mouches hématophages qui se nourrissent de sang. Vous avez les moustiques Aedes. Donc, vous voyez la chaîne de transmission, comment elle se présente.
Quelles précautions peut-on prendre alors pour éviter d'être infecté par cette fièvre du Vallée du Rift ?
Et la prévention, vraiment, de notre contexte actuellement, il faut combattre l'abattage clandestin. Parce qu'il y a des gens qui font l'abattage clandestin. Il faut empêcher, il faut l'éviter. Il faut éviter la consommation du lait cru. Ça veut dire qu'il faut bouillir le lait avant de le prendre. Il faut brûler tous les cadavres d'animaux qui surviennent, surtout dans la région où sévit l'épidémie. Il faut éviter le contact rapproché avec les animaux dans cette zone. Il faut, par exemple, aux vétérinaires ou aux laborantins qui manipulent, il faut porter les gants. Là où on a des mouches, des moustiques Aedes ou des mouches hématophages qu'on rencontre de temps en temps chez nous, il faut une utilisation de moustiquaires imprégnés. Il faut traiter les gîtes larvaires de ces insectes. Donc, en un mot, il faut une hygiène rigoureuse et toute viande qui ne vient pas de l'abattoir ne doit pas être consommée, surtout dans la zone où sévit cette maladie.
Voilà, c'était le docteur Iliassou Idi. À noter que pour combattre cette maladie virale, un centre de traitement pour les malades de l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift a été ouvert en urgence à Chinta Baraden, localité proche de Tawa.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Tchad, les poissons frais sont de plus en plus rares sur les marchés de la capitale N'Djamena en cette saison des pluies. Dans le passé, c'était en cette période où les poissons abondaient dans les marchés et se vendaient à bon prix. Le constat d'André Kodmajinga.
Nous sommes au marché moderne de poissons frais situé au quartier Moursal dans le 6e arrondissement municipal de la capitale. Ce marché qui a été inauguré il y a 3 mois a une capacité de conserver les poissons au frais pendant plusieurs jours, ce qui permet aux commerçants détaillants de s'en procurer et les revendre aux consommateurs dans les différents marchés. D'habitude, c'est en août, appelé aussi Chartamani en arabe local qui signifie le mois le plus dur, que les poissons tels que les carpes ou tilapia et le Cynodontus chal ou garga en arabe local inondent les marchés. Malheureusement, cette année, ces poissons préférés des Tchadiens et dont le prix est à la bourse de tous se font de plus en plus rares sur les marchés. Younous Ousmane est le président du comité de gestion du marché moderne de poissons frais.
Ce n'est pas la rareté de poissons en tant que tel. Il y a du poisson au contraire dans le lac. Sauf que ce sont les adeptes de la secte Boko Haram qui écument cette partie du pays qui ont empêché les pêcheurs d'exercer leurs activités.
Pour la présidente de l'Union des organisations de femmes vendeuses du poisson du Tchad, Fahil Agoui, les raisons qui expliquent la rareté des poissons sur le marché sont ailleurs.
Cette carence, c'est dû à l'augmentation des fleuves. Les poissons viennent par période. Les gros poissons sont malins. Quand les pêcheurs vont les pêcher, les gros poissons de très loin, ils voient les dangers, ils se cachent. tandis que les petits poissons ne sont pas encore mûrs dans l'urance. Les pêcheurs arrivent à les capturer. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas de bonne qualité de poisson au marché. Pour les problèmes de garga, garga est un poisson étranger. Garga aussi a sa période. S'il pleut, garga peut arriver au début du mois de juillet jusqu'à voir la première semaine d'août. Donc les autres mois, ce n'est pas la période de garga. C'est pour cela que vous ne voyez pas le garga au marché.
Les commerçantes détaillants apprécient diversement la qualité du poisson qui se trouve au marché ces derniers temps.
Maintenant, il y a beaucoup de poissons, mais seulement qu'il y a des petites carpions. Bonne qualité, il n'y a pas assez. Il y a assez seulement que des carpions, là, les petites carpes que les gens n'aiment pas. Là. C'est ça qu'il y en a assez au marché.
Entre-temps, les consommateurs, quant à eux, se rabattent sur les légumes et gombo frais pour assurer le quotidien. André Kodma Dingar Ndiamena pour VOA Afrique.
Présidentielle américaine, lundi prochain, c'est le premier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump. La campagne bat son plein et les sondages révèlent les deux rivaux être au coude à coude dans certains états clés pour gagner la Maison Blanche. Anastasie Tudiech, contre la vague de violence, Trump veut plus de contrôle de police.
Rétropédalage de Donald Trump aujourd'hui. Le candidat républicain a souhaité clarifier ses propos. Il ne souhaite pas généraliser le stop and frisk à tout le territoire, mais il trouve que cette technique policière est nécessaire pour Chicago, frappé par une recrudescence des violences par arme à feu. Le stop and frisk est une technique policière de fouille au hasard des individus dans la rue. Elle a été vivement critiquée par les minorités noires et latino-américaines qui se sentent les premières visées. Pour M. Trump, quand on a 3000 personnes touchées par balle et autant de morts, c'est pire que l'Afghanistan ou des pays en guerre. Selon lui, Chicago a besoin des fouilles inopinées et les policiers sur le terrain savent qui a une arme et qui ne devrait pas en avoir. Interrogé mercredi sur Fox News, M. Trump avait pourtant dit « L'une des choses que je ferai, c'est les fouilles inopinées », ajoutant « On l'a fait à New York et ça a incroyablement bien marché, induisant qu'une généralisation des fouilles était nécessaire dans tout le pays. »
Voilà Hillary Clinton, qui, elle, fait de l'humour.
La candidate démocrate était l'invitée d'une émission très caustique sur un site humoristique très populaire pour montrer une facette de sa personnalité jusqu'ici peu exposée, son sens de l'humour. Parmi les questions irrévérencieuses du présentateur...
En tant que secrétaire, combien de mots par minute pouvez-vous taper?
And how does President Obama like his coffee? Like himself? Weak.
Et le président Obama, il aime comment son café? Faible, comme lui?
You know, Zach, those are really out of date.
Vous savez, Zach, ce sont des questions vraiment démodées que vous me posez là. Vous devriez sortir plus souvent.
Merci, Anastasie.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Merci Michel pour ce beau morceau et c'est la fin de cette édition. Vous avez dirigé la mise en onde avec l'assistance de Nachwan Kale à la console. Présentation Morgane Guiriec et Eric Manilakit.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de rester branchés sur VOA Afrique. Merci à nos fans sur Facebook. plus d'1 700 000 et on maintient la conversation. Enfin, visitez notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM, Sabari FM, Bamako, Golf FM, Cotonou, Milo FM 99.5, Cancan Niger, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.